On rejoint tout de suite notre chroniqueur, Philippe Duchamp. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Liliane. Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Très, très bien, merci.
Philippe, qu'est-ce que tu nous apportes comme découverte scientifique cette semaine?
Bon, ben, on va commencer par parler de musique. Des études qui s'intéressent à la musique et les bienfaits que la musique elle, peut donner aux gens, ben, il y en a plusieurs. Puis on sait que la musique, c'est bon pour les apprentissages, hein, pour la mémorisation, la résolution, pardon, de problèmes. C'est bon aussi pour la santé mentale. Ça peut aider à réduire le stress. Alors, jouer un instrument de musique, ça fait intervenir plusieurs parties dans notre cerveau. On a, par exemple, la partie qui s'occupe de la coordination des mouvements. Il y a les aires de traitement des informations visuelles et auditives. Et il y a aussi le cortex frontal, là, juste en avant, qui est responsable de l'organisation et la prise de décision. Donc, jouer un instrument, ça le sollicite énormément notre cerveau. Et puis, quand on joue de la musique, ben, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on favorise une augmentation des connexions entre nos neurones. Ça fait qu'on crée plein de nouvelles connexions. On appelle ça la plasticité synaptique. C'est le terme qu'on utilise dans le domaine scientifique. Alors, voici les bienfaits de la musique. Et là, on a une étude qui est intéressante qui nous dit que jouer un instrument de musique, mais ça peut être dont on ressent la douleur. Et puis ça, c'est un constat qui est le fun parce que ça peut peut-être nous amener à penser à des thérapies potentielles pour des personnes qui souffrent de douleurs chroniques.
Effectivement, c'est une nouveauté qui pourrait apporter une nouvelle vision des douleurs chroniques parce qu'on a souvent peu de solutions là, pour les douleurs chroniques.
Absolument, c'est ça. Une douleur chronique, ben, une douleur qui se prolonge au-delà de sa période normale de guérison. Disons que ça peut aller au-delà de 6 mois. Puis comme tu l'as mentionné, c'est que c'est une douleur qui se traite mal par les médicaments qu'on a présentement aujourd'hui ou les autres possibilités de thérapie. Puis il faut dire, des douleurs chroniques, ça vient généralement aussi avec un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. C'est une maladie qui affecte énormément la qualité de vie des gens qui en souffrent. En fait, c'est quand même incroyable de penser qu'au Canada, il y a 1 personne sur 5 qui souffre de douleurs chroniques. Donc, c'est pas à prendre à la légère comme situation.
Non, c'est énorme, hein? 1 sur 5 quand même.
Absolument. Donc, ça, on va revenir à l'étude. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Bien, ils ont pris 40 participants. Dans les participants qu'il y avait, il y en avait qui jouaient de la musique et il y en a d'autres qui n'étaient pas des musiciens. Et ce qu'ils ont fait par la suite, c'est qu'ils ont injecté dans le muscle de la main des participants une molécule qui est un facteur de croissance pour les neurones, pour les nerfs. Donc, c'est quelque chose qui est pour la santé des nerfs. Mais quand on injecte ça dans la main comme ça, là, ben, ça va générer un certain inconfort, des courbatures. Puis ça peut durer pendant quelques jours. Et puis, ça va surtout se manifester, entre autres, quand on fait des mouvements avec nos mains. Mais je rassure les gens, là, ça ne crée pas de dommages à long terme, là. Donc, c'est pour les biens de l'expérience. Et là, ce qu'ils ont fait, bien, ils ont mesuré l'activité cérébrale du cerveau par une méthode, une technique qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Un grand mot, là, mais essentiellement, c'est pour dire qu'on envoie des toutes petites impulsions magnétiques dans le cerveau. Puis ça permet d'avoir une cartographie, de voir des ondes du cerveau qui sont activées. Puis là, on s'intéresse ici à la zone du cerveau qui contrôle la motricité de la main. Alors, on va comparer les cartes avant puis après l'injection de la molécule.
Oui.
Et maintenant, les résultats. Qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, c'est que les personnes qui ne jouent pas de musique, une fois qu'on a injecté la molécule là, qui crée des douleurs aux doigts, tout ça, ou à la main, ben, la zone dans le cerveau qui contrôle la motricité, elle a tendance à réduire assez rapidement après 2 jours. Alors que chez les musiciens, cette zone-là du cerveau qui est activée reste intacte. Donc ça, c'est vraiment un constat fort intéressant. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les musiciens qui ont reçu l'injection au niveau des mains, là, ben, ils rapportent un inconfort qui est beaucoup moins grand que chez les personnes qui ne jouent pas de musique. Et plus les personnes qui jouent de la musique pratiquent leur instrument, moins ils vont ressentir la douleur. Donc, c'est un constat qui est formidable, qui met en relation la musique et les bienfaits que ça peut avoir sur des douleurs comme des douleurs chroniques.
Il y a aussi probablement un bienfait au fait de bouger les doigts, hein, donc de garder la zone active, j'imagine.
Absolument, c'est exactement ça. C'est avec le fait de jouer de la musique, on s'entraîne, on active, on sollicite ces ondes-là motrices de la main. Donc, ça prévient un peu les douleurs qu'on pourrait ressentir dans un cas où on a des douleurs chroniques. Donc, est-ce que c'est un remède miracle? Ben, probablement pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut améliorer la condition des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Ça peut peut-être ouvrir la porte à des traitements éventuellement pour mieux comprendre les effets que ça a positifs. Puis, ben voilà, c'est une belle découverte et puis c'est comme de la belle musique à nos oreilles.
À tout le moins, ça alimente la réflexion pour penser autrement.
Absolument, voilà.
Qu'est-ce que tu adoptes pour nous, Philippe?
J'enchaîne avec une autre nouvelle. Tiens, ici, on va s'intéresser au lithium. Quand on parle de lithium, là, la plupart des gens ont entendu ce mot-là. Ben oui, des batteries au lithium.
Oui, voilà.
Effectivement, hein, les batteries qu'on voit dans des voitures électriques ou dans tous les autres appareils électroniques là, qui ont besoin de batteries. Le lithium, c'est un métal qui réagit fortement, mais c'est aussi un métal qui a un gros potentiel énergétique. Alors, c'est pas pour rien qu'on le retrouve dans nos batteries. Sur le plan médical, le lithium, quand on le donne sous forme d'un sel, ben ça peut agir comme stabilisateur de l'humeur pour des personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires ou de dépression encore. Le lithium, c'est un élément, c'est un métal comme bien d'autres qui est naturellement présent dans notre corps. On en a dans notre cerveau, puis ça contribue au bon fonctionnement. Mais il y a des chercheurs, plusieurs chercheurs qui ont émis l'hypothèse que ben une variation de ce métal-là, peut-être que ça a un lien avec la maladie de l'Alzheimer. Alors, dans ce contexte-là, il y a des chercheurs de l'Université Harvard qui ont publié une étude récemment et se sont intéressés, ils se sont dit, tiens, on va analyser les niveaux de métaux présents dans le cerveau des personnes âgées qui sont décédées. Puis parmi ces gens-là, tu avais des gens qui avaient un cerveau en très bonne santé, d'autres avaient un cerveau, d'autres personnes présentaient un trouble cognitif léger, puis il y en a d'autres qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et quand ils ont analysé les métaux présents dans le cerveau, ben ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la concentration du lithium était vraiment réduite dans le cerveau des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Et un autre constat important, c'est que chez les personnes avec un trouble cognitif léger, ben ils ont observé des dépôts de lithium dans des plaques amyloïdes. Alors, quand on parle de plaques amyloïdes, là, on entend souvent ce terme-là dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. C'est une caractéristique propre. C'est une accumulation de protéines qui forment des petits dépôts sur les neurones. Puis ça compromet leur communication. Ils n'arrivent plus à bien communiquer, puis ils vont éventuellement même mourir. Donc, le lien est assez évident à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ben, en fait, en poussant leur étude, ils se sont rendus compte que les plaques amyloïdes, on dirait qu'elles se comportent comme des aimants à lithium. C'est comme si, autrement dit, les plaques amyloïdes vont capturer le métal, le lithium, ça va entraîner la formation de d'autres plaques amyloïdes. Puis là, ça y est, ça fait boule de neige.
Oui.
Ça, encore une fois, ça capture du lithium. Fait que le résultat, c'est que la quantité de lithium disponible dans le cerveau, ben elle a beaucoup diminué à ce moment-là.
Effectivement, et comme tu disais, ça irait avec le fait que dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, ça dégénère et ça peut dégénérer rapidement.
Oui, effectivement. Dernier point sur cette étude-là, pour mieux comprendre c'est quoi l'impact du lithium là, dans le cerveau, les chercheurs ont pris des souris qui sont génétiquement prédisposées à développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer, puis là, ils leur ont donné à ces souris-là une alimentation qui est pauvre en lithium. Et après 5 semaines, bien, ils ont constaté que les cerveaux de ces souris-là avaient presque 2 fois plus de plaques amyloïdes comparativement à des souris qui ont reçu une alimentation tout à fait normale.
Oh, quand même!
Et un dernier point, c'est lorsque les souris étaient nourries pendant 5 semaines avec des petites doses de sel de lithium, bien là, on voit un effet positif, c'est-à-dire qu'on a observé une diminution des lésions cérébrales puis une amélioration de leur capacité de mémoire. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'il faut en prendre du lithium? Faut-il en consommer, nous autres, les soins du lithium? Attention, on parle dans cette étude-là de microdoses de lithium.
Oui,
donc,
voilà.
C'est vraiment des très petites quantités. Puis il faut se dire une chose, ça va prendre d'autres études pour être capable d'être certain, OK, quelle quantité on donne, puis à quel moment on va le donner à une personne comme traitement préventif ou alors un traitement pour ralentir la maladie d'Alzheimer. C'est encore des questions auxquelles il faut répondre. Mais on a déjà une bonne piste, c'est-à-dire le lithium a un rôle à jouer, a un impact, disons, dans la maladie de l'Alzheimer, puis ça vaut la peine de l'investiguer davantage.
Encore une fois, ça ouvre le chemin à d'autres façon de penser, puis à d'autres études là, qui vont se faire par la suite, donc parce oui. que évidemment les scientifiques en lisant ça vont commencer à s'intéresser davantage au lithium et aux quantités qu'il faudrait gérer.
Éventuellement, c'est ça. Ça fera partie des prochains intérêts dans la recherche.
Et en terminant, Philippe, est-ce que tu as autre chose pour nous?
Ah, ben si j'ai encore un peu de temps.
Oui, tu as un peu de
parler
temps.
Parler d'une innovation technologique, en fait, d'un vêtement qui est vraiment intéressant et qui pourrait être très utile pour la détection des crises d'épilepsie. Donc, une crise d'épilepsie, c'est quoi? C'est lorsque notre cerveau s'emballe puis que là, il y a des décharges électriques là, de façon excessive qui se produisent. Certains comparent ça à comme une tempête électrique dans la tête, là, dans le cerveau. Parfois, ça amène des impacts plus ou moins perceptibles, mais dans bien des cas, ça va générer des convulsions qui vont durer plus ou moins longtemps. Ça va... le rythme cardiaque va s'emballer, la respiration également, tu vois. Ça peut même aller jusqu'à une perte de connaissance pour certaines personnes. Puis là, on s'imagine bien que quand la personne perd connaissance et qu'elle tombe par terre, par exemple, c'était debout, ben, les blessures puis les fractures sont... Le risque augmente, autrement dit.
Oui, et on s'entend, les crises d'épilepsie répétées, c'est très mauvais pour le cerveau à long terme.
Oui, effectivement. Ça doit être assez pénible pour les gens qui sont atteints de ça. Oui. Bon, il existe des médicaments, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Puis il y a d'autres avenues comme la chirurgie pour enlever la partie du cerveau qui est responsable des crises épileptiques, mais ce n'est pas pour tout le monde, ça aussi. Alors, il y a des gens qui vont plutôt s'intéresser à trouver des outils pour détecter les premiers signes du déclenchement d'une crise d'épilepsie. Et là, c'est à ce moment, dans ce contexte-là que je vous parle d'une étude de chercheurs au Québec, à l'Université de Montréal, menée par les docteurs Dan Kua Nguyen et Elie Bouassi. Donc, c'est deux neuroscientifiques qui se sont intéressés à un vêtement, un chandail, qui à l'origine a été fabriqué et conçu pour des athlètes, mais les autres se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour détecter les premiers signes d'une convulsion épileptique? Alors, je te parle du chandail. Il y a trois types d'instruments sur le chandail. Il y a des ceintures thoraciques. Ça sert à mesurer le rythme de la respiration et la force à laquelle on respire. Il y a des électrodes pour mesurer l'activité électrique du cœur. Et puis, il y a un autre petit appareil qui est un accéléromètre. Ça, c'est pour détecter les mouvements. Quand ces trois instruments-là, dans le chandail, prennent une multitude de données, puis quand ils combinent ça ensemble, bien, le chandail arrive à détecter les manifestations typiques d'une convulsion, comme par exemple un tremblement des membres, un emballement du rythme cardiaque ou encore des anomalies dans la respiration. Alors, dès que le chandail détecte ça, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il envoie un petit signal automatique, c'est-à-dire une alerte à qui? Bien, à soit une personne de ton entourage ou alors un professionnel de la santé pour que la personne qui est en train de subir une crise puisse avoir de l'aide rapidement. Donc, c'est un outil pour détecter les premiers signes d'une crise épileptique.
Ça reste fascinant de faire ça avec un chandail quand même.
Oui, hein, quand même, hein, on ne pense pas à ça. Mais là, l'idée, c'est qu'ils font ça en laboratoire, ou du moins, ils font ça dans un milieu hospitalier. Mais éventuellement, ce qui serait souhaité, c'est que les gens puissent porter ça à la maison. Ça permettrait donc aux gens qui sont proches des personnes qui souffrent d'épilepsie bien, d'être rassurés. Parce qu'ils vont être au fait que s'il y a une crise qui se déclenche, bien, ils vont être avertis avec une alarme comme ça pour que la personne qui subit la crise puisse être prise en charge le plus rapidement possible.
Comme tu le dis, c'est un outil supplémentaire.
Oui, ça va être un outil. On le souhaite, hein? C'est comme ça qu'on le voit. Oui.
Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous.
Ça me fait très plaisir.
Bonne journée.
Toi aussi.